Il semble qu'on pourrait classer les explorateurs, puisque le terme a encore cours malgré tout, en deux catégories. Ceux qui sont d'abord travaillés par une soif d'aventure, d'inédit, de dépaysement, et même par un aspect sportif, dangereux, de leur expédition. Et puis ceux qui partent au contraire d'un point de vue scientifique et qui sont amenés, pour faire aboutir leur projet, à côtoyer de très réels dangers, à faire vraiment ce qu'on appelle de l'exploration.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary. Bonjour à tous. Dans la grande famille des explorateurs, ces aventuriers solitaires, avides de lointains et d'itinéraires qui ont fait l'histoire de l'exploration et de la découverte du monde, on a longtemps eu tendance à distinguer une infime partie d'entre eux, à en louer les vieux pères, européens, masculins, blancs, casques vissés sur la tête et carabines jamais très loin. En tout cas, au XIXe siècle, en Europe, c'était l'histoire, ou plutôt le mythe qu'on aimait à se raconter. Dans la grande famille des explorateurs à cette époque-là, ils s'appellent Dumont-Durville, Admundsen, Livingstone, Caillé, Burton, Rasmussen ou encore Stanley. Des noms à jamais synonymes de records, de premières et de conquêtes, des pôles au fleuve d'Afrique, de Tombouctou à l'Antarctique. Mais dans cette famille, connaissez-vous David Boila, le métis, Octavie Coudreau, Apatou, Nainsing ou encore Mohamed El Tounsidi, le Tunisien? Si vous allez faire un tour à Paris du côté de la Bibliothèque nationale de France, vous apprendrez que eux aussi étaient de grands explorateurs, même si pendant longtemps ils ont été maintenus dans l'ombre des recoins de l'histoire. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul visage de l'exploration, mais bien mille. On vous propose cette semaine de nous suivre dans une exposition qui invite à la réflexion et à la déconstruction, ce qui finalement est toujours bon dans les familles.
Alors, le titre de l'exposition, Visage de l'exploration, du mythe à l'histoire, cherche à attirer l'attention sur la multiplicité des acteurs et des actrices de l'exploration au XIXe siècle. Donc on va entrer dans l'exposition et tout de suite se retrouver face à une mosaïque de portraits qui sont à la fois des portraits stéréotypés de grands explorateurs qui ont été immortalisés par les photographes les plus fameux du XIXe siècle comme Nadar et qui posent de manière très fière le regard porté vers le lointain, souvent armés et déguisés avec des vêtements qui sont censés évoquer les lointains. Et sont mis en regard d'autres clichés, d'autres photos qui défilent sur des écrans et qui sont en général des agrandissements, des clichés de moins bonne qualité, des arrière-plans de photographie que l'on a essayé de mettre en valeur, montrant précisément d'autres visages de l'exploration. Alors on a deux écrans. Alors ça défile, parce que justement, on voulait montrer cette multiplicité des visages, un guide amazonien, un guide Tungoose ou encore Nainsing, qui est un de ces explorateurs tibétains employés par les Britanniques pour explorer les contreforts de l'Himalaya. Alors c'était l'idée qui renvoie à ce que cherchent à faire beaucoup d'historiennes et d'historiens aujourd'hui, c'est-à-dire une histoire à part égale qui rende des voix, des visages, des images à tous ceux qui ont participé à ces histoires et que souvent on voit moins bien dans les archives, ces photos d'intermédiaires, de guides, d'explorateurs non européens tout simplement sont beaucoup plus rares et n'ont pas eu la même fortune.
C'est donc avec une loupe en main que l'on va déambuler avec Hélène Blais, historienne et co-commissaire de cette exposition « Visages de l'exploration au XIXe siècle ». À travers plus de 200 pièces ici exposées, toutes issues du fonds de la Société de Géographie en dépôt à la BNF. Parmi lesquelles des cartes, des carnets de voyage, des croquis, des récits de voyage ou encore des photographies comme celles que l'on retrouve sur le grand mur mosaïque à l'entrée de l'exposition. Après les grandes expéditions maritimes et scientifiques de La Pérouse ou Bougainville au XVIIIe siècle, les voyages d'exploration se multiplient au XIXe. À une époque où les nations du vieux continent ont bien compris que l'exploration du monde est un formidable levier de connaissances, mais aussi de puissance et de pouvoir. L'Europe a soif d'ailleurs et d'inconnus, d'exploits et de conquêtes. l'Afrique devient alors le terrain de jeu des explorateurs, un continent miroir de leurs ambitions parfois obscures et de leur destin funeste.
Alors là, on est devant une carte nécrologique de l'Afrique qui a été dressée en 1874 par un cartographe très connu à l'époque qui s'appelle Jules Hansen et qui est intéressante parce qu'elle montre une Afrique striée d'itinéraires, d'explorateurs européens dont on a perdu la trace.
Oui, c'est-à-dire que sur la carte, en fait, tous les noms sont des explorateurs morts.
Oui.
Et donc on associe les lieux à l'explorateur décédé sur place.
Voilà, tout à fait. Et l'Afrique devient une sorte d'immense mouroir qui renvoie à cette image du danger que constituait l'exploration du continent.
Donc là, par exemple, on peut lire, je vais essayer de voir, à Madagascar, à côté sur l'île Sainte-Marie, Raffnel, mort le 12 juin 1858. Ou alors là pour l'ancien Zaïre, Tudor, chirurgien anglais sûrement, mort le 29 août 1814, etc. etc. Mungo Park, qui est plus connu, tué en 1806, ou George Scott, dessinateur anglais, mort en août 1805. Et c'est fascinant cette pièce, parce que c'est vrai que ça montre bien aussi comment on envisageait l'Afrique, donc comme une terre de danger. Et puis aussi, on ne lit les lieux uniquement qu'à la faveur, à l'aune de ce qui est arrivé aux Blancs.
Oui, alors parce qu'on la connaît très mal déjà, et qu'on ne la connaît que par ce biais-là aussi. Donc c'est un peu une réalité qui dit aussi l'état des connaissances géographiques du moment, même si évidemment la carte Hansen simplifie un petit peu les choses, parce que dans les années 1870, on commençait à avoir une vision un peu plus précise de la géographie de l'Afrique. Mais lire à travers les lunettes de l'exploration européenne est effectivement quelque chose qui va se poursuivre très longtemps, d'ailleurs, dans la manière de représenter les territoires et leurs réalités humaines.
Et alors, en parlant de cette figure de l'Européen explorateur, comment était-il dépeint ? C'était quoi ? L'homme qui partait en quête de savoir, bravant les dangers, l'inconnu, le sauvage peut-être ?
Oui, tout à fait. Donc tous les stéréotypes que vous avancez là étaient très prégnants et continuent à l'être. D'ailleurs, on a en face de ce mur quelques évocations de ces clichés qui se perpétuent jusqu'à aujourd'hui, qui ont été mises en œuvre tout de suite. Donc les dangers à affronter, un monde sauvage et un monde constitué de sauvages.
Là, il y a un film.
Il y a un film qui illustre ce mythe aussi de la rencontre de Stanley Livingstone, donc Livingstone parti comme explorateur qui disparaît, Stanley le journaliste américain qui va à sa rencontre.
Donc en Afrique, quand lui partait en quête des sources du Nil et que finalement on a perdu la trace du docteur Livingstone et que Stanley, ce journaliste naturalisé américain, va le chercher et après des mois de recherche au fin fond de la brousse comme on dit, il finit par le retrouver.
Voilà. Et donc, il y a cette fameuse phrase complètement mythique du docteur Livingstone, I presume, qui résume en fait toute cette mythologie de l'explorateur disparu, de la recherche de l'exploration et des Européens qui deviennent le centre d'une histoire. Et on le voit très bien dans ce film aussi, même si ce n'est pas l'enjeu, alors que les Africains, tous les personnels des caravanes qui ont accompagné ces explorateurs sont toujours en arrière-plan, assez figés et semblant faire partie d'un décor quasi naturel.
Oui, c'est ça, parce que sur ce film en noir et blanc, ils font partie du décor, ils sont derrière.
Ils sont derrière, ils sont flous, ils n'ont pas d'individualité, pas de nom, et c'est quelque chose qu'on retrouve constamment dans les archives aussi, et qui fait partie un peu des défis que se donnent les historiens aujourd'hui, c'est-à-dire retrouver des vies aussi et des histoires de vie de tous ces personnages qui ont rendu l'exploration possible.
Livingstone, I presume. Yes.
Thank God, Doctor, I've been permitted to see.
I'm thankful that I'm here to welcome you, Mr.
Stanley.
Mr. Stanley. You're not well, Mr. Stanley. Come in.
Alors justement, Hélène Blais, au sujet de cette glorification de la figure de l'explorateur, devant nous, on a un, comment on pourrait dire, un document, un objet même,
c'est un objet,
extrêmement intéressant. Qu'est-ce que c'est, un cyclorama ?
Alors un cyclorama, c'est un petit théâtre de carton en fait, hein, qui était destiné aux enfants, qui est comme une sorte de guignol miniature dans lequel est monté un fond que l'on agite avec une manivelle et qui permet de faire défiler des petites images. Donc c'est comme un dessin animé des années 1880, si vous voulez. Celui-ci s'appelle The Reisener Africa, le voyage en Afrique. Et quand on fait tourner la manivelle, hein, on découvre toute une série de clichés sur justement le voyage en Afrique, les dangers de la traversée, les bêtes sauvages, l'accueil plus ou moins hostile des Africains devant ces explorateurs européens tout armés et casqués. Donc c'est une de ces images, hein, de ce qu'on a appelé la culture de l'exploration au XIXe siècle, qui renvoie à la manière dont on se représente, hein, le rôle de ces explorateurs bravant tous les dangers. Culture qui se diffuse donc chez les enfants aussi. On pourrait penser aux images dans les cahiers scolaires ou aux petites publicités qui, partout, hein, donnent à voir ces figures d'explorateurs européens au milieu de contrées sauvages.
Avec les récits de Jules Verne et ses voyages extraordinaires, les feuilletons de la presse illustrée et toute cette iconographie du voyage en terre inconnue que l'on retrouvait sur les paquets de chocolat ou de thé, l'explorateur sera donc le héros des enfants de tout un siècle, le 19e. Ce que l'on dit moins, c'est comment ces défricheurs, scientifiques pétris d'aventures, ont pu aussi être des auxiliaires, ou en tout cas des ressources très utiles à l'entreprise coloniale, notamment en ouvrant la voie de terre, jusque-là inexplorée par les Européens. À cette époque, une institution, une société savante est centrale dans cet appétit du monde. Olivier Loiseau est conservateur général au département des cartes et plans de la BNF, en charge des collections de la Société de Géographie, et il est co-commissaire de l'exposition.
La Société de Géographie, elle a été créée dans le but de développer la science géographique, de faire entreprendre des voyages dans les régions du monde encore inconnues des Européens, d'encourager les voyages de découverte, d'orientation aussi du regard des voyageurs par cette pratique des questions aux voyageurs, des instructions qui leur sont données pour la manière d'observer, quelles sont les lacunes de la connaissance géographique à combler. Donc la Société de Géographie a accompagné pendant tout ce siècle qui fait l'objet de cette exposition, elle a accompagné des voyageurs, elle a participé à la publication, à la mise en forme de leurs travaux. Elle a décerné des prix pour travaux géographiques, pour des voyages particulièrement spectaculaires qui ont contribué à l'avancée des connaissances géographiques. Et elle a organisé aussi des conférences, elle a donné la parole à ses explorateurs, notamment à la fin du 19e siècle, avec des conférences illustrées par des projections photographiques.
Donc finalement, cette société de géographie, c'est un petit peu la machine qui a fabriqué d'une certaine manière ces explorateurs.
Alors parmi d'autres institutions, la Société de Géographie n'est pas la seule. D'abord, ce n'est pas la seule Société de Géographie en France. C'est la première créée en France et dans le monde sous ce nom. Mais ce n'est pas la seule créée en France. Elle aura des petites sœurs, on va dire, les Sociétés de Géographie dans les régions. Elle n'est pas non plus la seule comme institution à parrainer des voyageurs. L'Académie des sciences, par exemple, le Muséum national d'histoire naturelle ont aussi commandité des explorations, aussi parrainé des voyageurs. Et bien évidemment aussi l'État. N'oublions pas l'État avec ses différents ministères, notamment le ministère de l'Instruction publique qui durant ce siècle que nous explorons, va missionner, parrainer, financer plus de 2000 voyageurs. Alors parfois, la Société de géographie, d'une certaine manière, peut aussi jouer un rôle de centralisation de toutes ces demandes de ces différentes institutions dans leur accompagnement des voyageurs.
Les géographes de la société ont un rôle déterminant dans la préparation des voyages, le choix des itinéraires et des territoires à explorer et le guidage à distance en fait des explorateurs. Alors ceci, on peut le voir dans une petite reconstitution de ce que pourrait être un cabinet de géographes.
Avec une immense carte, en l'occurrence de l'Afrique, qui date de 1820. C'est ça, elle a été faite par qui ?
Par Hérisson, qui était ce qu'on appelle un géographe de cabinet, un cartographe de cabinet, habitué donc à tracer des cartes à partir des informations rapportées par les voyageurs, qu'il collecte et compile de manière assez incertaine, en essayant de vérifier, en croisant plusieurs récits, qui en même temps, sur cette carte en particulier, donne des indications sur ce qu'il faudrait encore explorer pour pouvoir complètement éliminer ce qui reste en blanc sur la carte. On va dire aux explorateurs, vous allez aller là, là, parce que, comme on peut le lire sur la carte, c'est une partie intérieure entièrement inconnue aux Européens.
Ah oui, c'est ce qui est écrit dessus.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on signale quand même la méconnaissance.
Voilà. On signale aussi des incertitudes. Par exemple, ici, on nous dit, on assure que ce lac a une grande étendue vers le nord, ce qui signifie à vérifier éventuellement. Donc c'est une carte qui mêle à la fois des toponymes de choses qui ont été déjà explorées, et puis qui dit en fait d'une certaine manière ce qui reste à faire, ce qui reste à trouver, ce qui reste à découvrir.
À explorer,
en effet.
Là, qu'est-ce que c'est, Hélène Blais ? C'est le manuel de l'explorateur.
Alors, un manuel de l'explorateur.
Il n'y en a pas qu'un seul.
Non, il y en a plein. Voilà, c'est presque un genre littéraire du 19e siècle qui sont des sortes d'ancêtres du guide du routard qui collectent toute une série d'informations pratiques destinées aux explorateurs, des vocabulaires, des conseils d'hygiène, de santé. Et donc, on voit là que l'explorateur ne part pas sans rien, sans bagage. Il y a vraiment quelque chose de préparé. On a mis aussi un exemple d'un laissez-passer qui est préparé avant le voyage d'un certain calier en Égypte, puisque beaucoup de ces territoires étaient des territoires où il était difficile de pénétrer, c'était même interdit. Et donc, on a tout un système de visas, laissez-passer, qu'il faut prévoir en amont du voyage pour permettre à l'explorateur de progresser suivant l'itinéraire qui lui a été tracé.
Donc là, on est sur des expéditions, des explorations scientifiques, savantes. Les motifs évoluent, je crois, dans le temps. C'est-à-dire que la Société de géographie, au départ, était réellement dans cet appel, d'ailleurs que lancent ces blancs dans les cartes, de découvrir le monde. Et puis, petit à petit, ça va évoluer au fil du 19e siècle.
Oui, alors on peut le dire comme ça, c'est parfois un peu plus compliqué parce que la chronologie n'est pas si lisse que ça. Avant même la création de la Société de géographie en 1821, il y a eu cette grande expédition dite d'Égypte. Les Français vont en Égypte, c'est à la fois une armée et une expédition de savants, d'explorateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que Jomard, qui est l'un des fondateurs de la Société de géographie, est alors connu parce que c'est lui qui a édité toute une partie des résultats de l'expédition savante en Égypte. L'expédition d'Égypte napoléonienne est un échec militaire total, mais c'est une expédition dont on va garder la mémoire par le travail qui a été accompli par les savants, cartographes, archéologues, etc., etc. Et donc, on voit là l'alliance, en fait, de l'exploration et de la guerre, qui est quelque chose de très ancien, petit à petit au cours du 19e siècle, parce que la situation géopolitique évolue en Europe et dans le rapport de l'Europe au reste du monde, les explorations vont être de plus en plus, en effet, liées à des volontés de conquête ou d'appropriation des territoires. Mais en fait, c'est un lien qui est assez intrinsèque, hein, et que l'on retrouve d'une certaine manière ou d'une autre dans de nombreuses explorations qui peuvent être commerciales, politiques, territoriales ou autres.
Globalement, on s'est toujours intéressé aux explorateurs depuis le 19e siècle, mais il y a eu pendant très longtemps une vision très héroïsée de l'exploration.
Camille Lefebvre, historienne et directrice de recherche au CNRS et spécialiste du Sahara et du Sahel au 19e siècle.
Et à partir des années 1990 et puis ensuite surtout dans les années 2000, il y a eu un certain nombre d'historiens et d'historiennes qui ont cherché à reconstituer les conditions matérielles dans lesquelles les savoirs de l'exploration avaient été constitués.
Donc en gros, la réalité de l'expédition plutôt que seulement le récit qu'on en a fait au retour.
Exactement, on s'intéressait beaucoup aux récits, on étudiait les récits. Et là, l'idée, ça a été de retourner à la matérialité concrète de qu'est-ce qui s'était passé sur le terrain, comment les gens avaient travaillé, comment ils s'étaient déplacés, concrètement, quels moyens ils avaient eu de produire les récits qu'ils avaient faits.
Et donc, dans ce renouvellement, à partir du contexte de la réalité d'une expédition, on voit apparaître qui et quoi. Quel visage, justement, pour faire écho au nom de l'exposition, quel visage apparaît ?
Alors, si on se contente plus de regarder uniquement ce que l'explorateur a raconté, mais si on regarde, par exemple, ses carnets de terrain, si on regarde aussi comment il a négocié avec l'institution qu'il a envoyée, comment il s'est déplacé matériellement, ce qu'on voit, c'est une myriade de gens autour de lui qui rendent possible son voyage, d'abord en le finançant, d'abord en le formant avant qu'il parte, et puis une fois qu'il est sur le terrain, les gens qui, concrètement, portent ses affaires, portent sa valise, lui disent où trouver à manger, le guide pour aller d'un endroit à un autre, et plus largement aussi les relations qu'il noue de manière intime avec les populations locales, masculines et féminines, mais surtout les amitiés qui se nouent. Beaucoup de ces voyageurs ont eu des compagnons de voyage issus des régions qu'ils étaient en train de traverser, avec lesquels ils ont noué des relations d'amitié, parfois des relations scientifiques. Ces gens-là ont produit des savoirs, et à travers tout ce qu'il y a autour du récit de l'explorateur, on peut reconstituer toute cette myriade de personnages qui étaient là avec lui et qui rendaient possible en quelque sorte son voyage.
Alors parmi ces multiples visages de l'exploration, Hélène Blais, que vous présentez ici à la BNF, il y a ce visage, même ces visages, qui sont intéressants. Parce que tout d'un coup, on inverse le miroir, en l'occurrence avec Mehemet Ali, vice-roi d'Égypte. Est-ce que vous pouvez nous présenter, parce qu'il a mené, il a même lancé une expédition vers l'Europe. Donc c'est dans l'autre sens.
Voilà. Donc là, l'idée, hein, c'était aussi d'essayer de décentrer un peu les regards en rappelant que l'exploration, c'est une aventure d'hommes blancs européens. Mais en fait, peut-être pas tant que ça, c'est ainsi.
Ou pas du tout, ou pas seulement.
Ou pas seulement, on va dire. Et c'est ainsi qu'on l'a beaucoup raconté, mais quand on regarde dans les archives, et même dans les archives de la Société de Géographie, donc ça c'est intéressant, parce que là on a quelques exemples, mais on pourrait en trouver beaucoup plus, on se rend compte que dans les commanditaires d'exploration, il y a beaucoup de souverains extra-européens. Et Mehmet Ali, donc, qui est le vice-roi d'Égypte, hein, qui prend la tête du pays après justement l'expédition napoléonienne qu'on évoquait tout à l'heure, qui se veut un roi modernisateur, a très vite compris l'intérêt des explorations pour affirmer à la fois la connaissance et la puissance de son pays. Donc il va être à l'origine de toute une série d'expéditions en Égypte même, et notamment dans le sud de l'Égypte, en remontant vers les sources du Nil. Mais il ordonne aussi des explorations au-delà de son pays, et notamment cette mission égyptienne hein, en France qui est confiée au grand cher de la mosquée du Caire et qui va voir débarquer à Paris ce cher et des étudiants qui, tels des explorateurs, hein, découvrent avec un certain étonnement et parfois beaucoup de surprise les mœurs des Parisiens de l'époque.
Et donc là, on voit, c'est une gravure justement de trois membres de cette mission égyptienne en France.
Voilà, donc ils ont fait aussi beaucoup impression hein, quand ils sont arrivés à Paris. Donc les gazettes en parlent, les journaux en parlent. Ce sont, alors c'est aussi le début de la vague orientalisante.
Donc là, ce sont des hommes en turban.
Oui, mais ce qu'ils étaient réellement. Hein, donc ils sont habillés à l'égyptienne, très, très dignes hein, dans leur tenue. Donc c'est quelque chose qui rappelle les poses qu'on a vues des photographies faites par Nadar, des explorateurs européens. On est dans une même mythologie. Et donc là, on a le récit de cette expédition avec tous les stéréotypes inversés hein, que l'on peut retrouver. Ils vont rencontrer des savants à l'Institut et reconnaissent, par exemple, qu'ils sont presque aussi savants que les oulémas du Caire. Donc voilà, on a les mêmes types de références. Hein,
c'est-à-dire qu'ils le ramènent à eux-mêmes, à leurs propres références.
Ils le ramènent à ce qu'ils connaissent, hein, comme les explorateurs européens passent leur temps à comparer ce qu'ils voient avec ce qu'ils connaissent.
L'Or de Paris, relation de voyage 1826-1831 de Rifa Al-Tartaoui.
Il est connu chez nous que la coiffure des Francs est le chapeau, que leurs chaussures sont le plus souvent les souliers noirs et les bottines, et que leur costume, c'est le drap noir. Mais les Français, bien qu'ils s'habillent généralement de cette manière, ne s'en tiennent pas à un costume uniforme, chacun ayant le choix de varier dans la gamme autorisée par sa coutume. Ce qui domine dans leurs vêtements, ce n'est pas l'ornement, mais l'extrême propreté. Les vêtements des femmes sont beaux, elles s'habillent avec coquetterie, surtout quand elles se parent de ce qu'elles ont de plus précieux. Les jours de chaleur, elles ont coutume de découvrir les parties extérieures du corps, elles se dévêtissent de la tête jusqu'au-dessus des seins, de telle façon que leur dos peut apparaître. Il ne s'agit pas de choses indécentes pour les gens de ce pays, mais jamais elles ne découvrent leurs jambes. Elles portent constamment des bas qui cachent l'or de jambes, surtout lorsqu'elles sortent dans les rues. À vrai dire, leurs jambes ne sont pas du tout extraordinaires.
Alors, moi, j'aime beaucoup la Germaine El Felati.
Alors, qui est Ahmed Ben Mohamed El Felati ?
Donc, c'est un lettré et un savant qui est originaire de la région de Kano, donc aujourd'hui au nord du Nigeria. Il vient d'une grande famille de lettrés musulmans. Il est aussi médecin. Il est très proche des milieux politiques de cette région. Et donc, il est parti faire le pèlerinage à la Mecque. Et sur le chemin à Tunis, il a rencontré des officiels français qui se sont intéressés à ses connaissances et à son savoir et qui lui ont demandé d'écrire une série de textes sur sa région d'origine, sur les régions qu'il connaissait. Et il a écrit une série de traités géographiques qui ensuite ont été utilisés par des militaires et des diplomates français. Et il a produit aussi une carte. Alors, on n'a pas accès à sa carte directement, à la carte que lui-même a faite, mais on a accès à ce que les Français ont construit à partir des informations qu'il avait données. Et donc, voilà, ça nous donne accès aussi aux formes de savoir géographique qui existaient dans cette région à cette époque-là. Pour moi, en tant qu'historienne de l'Afrique, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que c'est pas quelqu'un qui a été rencontré sur le bord de la route et à qui on a posé des questions juste comme ça. C'est un savant au sein de sa propre société. Et c'est quelqu'un qui a une étendue de connaissances qui est même fascinante pour nous aujourd'hui et qui peut toujours nous servir au sens où il décrit une très large région qui va à peu près du sud du Nigeria d'aujourd'hui jusqu'à la Libye.
Voilà. Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme, voilà, qu'il a visité, qu'il est capable de décrire, d'en décrire les populations, d'en décrire les activités économiques. Et les documents qu'il a produits sont aujourd'hui encore très utiles pour construire l'histoire de la région.
Donc c'est un grand explorateur.
Exactement, mais qui n'est pas reconnu comme explorateur par les sociétés de géographie européennes parce qu'il est considéré simplement comme un informateur Et ça, c'est un point qui est important, c'est que autour de l'exploration se construit l'idée que ça serait un savoir-faire qui serait exclusivement européen, alors que des pratiques de voyage et d'écriture savante sur le voyage existent dans le monde islamique depuis le Moyen-Âge et sont très connues.
L'exploration n'a pas, en l'occurrence, d'origine. La curiosité et la curiosité savante, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas de frontières, mais en tout cas, elle n'est pas plus européenne qu'elle ne serait même plus orientale ou autre. De tout temps, en tout lieu, on a exploré, en fait.
Et produit des discours scientifiques, savants, littéraires, sur les voyages, dans une variété de langues, une variété de graphies. Mais au XIXe siècle, les Européens construisent l'idée que, eux, le type de savoir qu'ils produisent serait différent, plus scientifique, meilleur en qualité, et donc qu'il serait supérieur. Ça va avec le discours de la colonisation qui viendra après.
Et ce lien complexe, étroit, entre colonisation et exploration, on en reparle juste après. Tout de suite, c'est Vieux Farka Touré sur RFI.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Voilà, là nous sommes devant un espace qui est consacré aux invisibles de l'exploration. Alors ce qu'on a appelé les invisibles, c'est tous ceux qui ont eu un rôle fondamental dans l'histoire de l'exploration, mais qu'on a souvent un peu oublié ou qui ont été négligés, oubliés du grand récit. Ce sont à l'image du Vendredi de Robinson Crusoe.
Le compagnon de voyage.
Le compagnon obscur de l'exploration, celui qu'on ne connaît pas, ce qu'on appelle les doubles des explorateurs. L'un de ceux qui apparaît ici, à Patou, c'est un personnage qui a été central dans toutes les explorations de Jules Crevaux. Alors Jules Crevaux, c'est un explorateur de l'Amazonie qui a été reconnu, médaillé en France et qui, pendant tous ses voyages, a été accompagné par cet homme dont on ne connaît que le prénom, Apatou, dont on ne connaît pas les dates, ni de naissance, ni de mort, mais dont on connaît l'existence parce que Jules Crevaux en parle, parce qu'il l'a ramené avec lui à Paris à la suite de ses explorations. Et parce qu'on a quelques images de ce personnage qui était en fait un ancien esclave du Suriname qui avait fui en Guyane. Donc il s'est retrouvé.
Donc un marron.
Voilà, un esclave en fuite et qui va se mettre au service des explorateurs français qui arrivent pour pénétrer dans l'Amazonie.
À si loin, si proche, on est toujours à l'exposition parisienne de la BNF, Visage de l'exploration au XIXe siècle, du mythe à l'histoire, en compagnie d'Hélène Blay, historienne que l'on vient d'entendre. Au moyen de reconstitution immersive, cette exposition emmène alors le visiteur dans les trois temps de l'exploration, de la préparation au temps du voyage jusqu'au retour de mission. Et en chemin, on croise donc toute cette galerie de visages et d'histoires méconnues, comme celle d'Apatou. À ses côtés, on retrouve aussi Matthew Henson, un Afro-Américain compagnon d'expédition de Robert Perry au pôle Nord, longtemps oublié du grand récit. Des Noirs, donc, des savants locaux aussi, des femmes exploratrices, comme Octavie Coudreau, qui après la mort de son mari décide de prolonger seule le voyage en Amazonie pendant 7 ans. Bien souvent d'ailleurs, les récits d'explorateurs mettent d'ailleurs en scène une solitude qui n'existe pas sur le terrain. Parce qu'il faut rencontrer, récolter des informations, dialoguer, comme l'a fait par exemple l'Allemand Heinrich Barth. Un homme qui va se passionner pour l'histoire de l'Afrique et louer la grandeur de ses civilisations, tout en restant quand même un homme de son temps colonial. Car la colonisation irrigue et parfois gouverne l'exploration, on retrouve Olivier Loiseau.
Dans cette partie, nous proposons au public une reconstitution un petit peu immersive d'un campement saharien, celui de Fernand Fourreau, qui mène plusieurs voyages au Sahara dans les années 1880-90. Donc on voit ici plusieurs choses. D'abord le quotidien d'un campement, les malles, les tentes. On est probablement sur une expédition de quelques dizaines d'hommes, des chameliers, qui sont rétribués par Fernand Fourreau.
Là, c'est lui qu'on voit sous la tente, cette grande photographie au mur.
Vous voyez que devant sa table de travail trône un fusil, donc l'exploration...
Qu'on revoit ici, d'ailleurs, vous avez mis.
Le fusil marque le danger que représentent ces voyages d'exploration dans ces régions-là. On est au moment où une mission, la mission Flatter, ça a été massacrée dans le Sahara. L'exploration en tant que... arriver sur une terre étrangère peut susciter de l'hostilité, de la curiosité, mais parfois de l'hostilité. Donc voyager armé est absolument nécessaire. Fourreau est un civil. Les missions de Fourreau sont un peu des missions de renseignement. C'est du renseignement géographique, c'est du renseignement sur les populations, des données qui seront fondamentales pour mener quelques années plus tard, donc à la toute fin du 19e siècle, en 1898, la grande mission Fourreau-Lamy. Fourreau sera le civil, François Lamy sera le militaire, à la tête de cette mission qui est chargée de relier les possessions françaises en Afrique du Nord avec celles de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale.
Française.
Voilà. Autour de la région du lac Tchad, ce rendez-vous sur le Tchad, comme c'était indiqué dans les publications de l'époque.
Mission Fourreau-Lamy, qui se passe dans la région sur laquelle je travaille, qui est une mission qui traverse le désert depuis l'Algérie, qui est déjà occupée, vers ce qui est aujourd'hui le Niger, avec le but de réunir les possessions françaises qui, à ce moment-là, sont séparées dans un même ensemble. Donc il y a une vraie visée impérialiste et coloniale dans la logique qui est à l'origine de l'expédition. Mais c'est encore cette exploration, elle a encore un discours d'ambition scientifique. Il y a Fourreau qui est un scientifique, un civil, et en même temps elle a une double tête qui est celle du commandant Lamy, qui lui est un militaire, qui a participé à l'occupation de l'Algérie. Mais dans la réalité, si on regarde concrètement comment elle se passe sur le terrain, en fait c'est des milliers de chameaux, des centaines d'hommes, tous armés, et elle pratique des razzias sur les populations. Elle prend, comme ils n'arrivent pas à se nourrir parce qu'ils sont trop nombreux et qu'on est en saison sèche, ils finissent par mettre des canons vers la ville d'Agadez pour forcer les gens à leur donner des chameaux. Ils finissent par avoir des pratiques, quand les guides ne veulent pas leur dire comment on fait pour aller d'un endroit à un autre, ils les exécutent.
Donc des brigands, quoi. C'est moi qui le dis.
Voilà, on a vraiment des formes d'expéditions militaires coloniales qui vont dire qu'elles font de la science, qui vont même parfois emmener avec eux des scientifiques, mais qui, dans la réalité, sont des immenses colonnes d'hommes armés qui viennent prendre possession des territoires et qui, en même temps qu'ils prennent possession et qu'ils occupent ces régions, produisent un savoir scientifique qui n'est plus le même parce que celui-là, il a pour objectif de servir les intérêts de la colonisation, donc de produire par exemple des cartes qui sont utilisables pour se déplacer d'un endroit à un autre, et on va en quelque sorte abandonné des pratiques qui étaient des pratiques de pur intérêt scientifique. Voilà. Bon, on sait que la science n'est jamais entièrement pure, mais enfin, avec plus ou moins
de stratégies derrière, notamment coloniales.
Exactement. Des pratiques qui ne sont plus du tout de l'ordre de ce qu'a été l'exploration scientifique, mais qui deviennent des pratiques d'une armée occupante qui cherche à s'imposer par la force sur les populations.
À bord de tous les bâtiments et part sur toutes les mers, le même jour, à la même heure, la marine française a salué le souvenir de Pierre Savorgnan de Brazza, qui naquit voici juste un siècle. En même temps, au cimetière d'Alger, M. Léonard, gouverneur général de l'Algérie, est allé fleurir la tombe de ce fondateur d'empire. Savorgnan de Brazza fut l'un des pionniers qui, au dernier siècle, ouvrirent les routes de l'Afrique noire. En deux voyages d'exploration, remontant le cours de l'Ogoué, il parvenait en 1880 sur les bords du Congo et y plantait le pavillon français, créant sur son passage deux villes d'avenir, Franceville et Brazzaville.
Dans cette archive INA des actualités françaises datant de 1952, la propagande coloniale fait encore bon ménage avec le parfum musqué de l'aventure, teinté aussi de cette fameuse mission civilisatrice des colons, fondateurs d'empires. Ainsi, parmi les visages que l'on croise dans l'histoire de l'exploration, mais aussi dans l'exposition de la BNF, on retrouve la figure du militaire conquérant, comme Joseph Gallieni, un homme de cartes et de science qui va user aussi de ruses et de violence pour faire avancer les pions français. En Afrique d'abord, entre le Sénégal, le Niger et le Mali, alors appelé Soudan français, où Gallieni va signer de nombreux traités de protectorat avec les autorités locales. Puis, au Tonkin, en Indochine, avant de partir soumettre Madagascar au terme d'une répression violente, appelée alors pacification. C'est là qu'il va d'ailleurs développer la nauséabonde politique des races, qui visait à cartographier les races dans le territoire malgache pour mieux les diviser et les dominer.
Il y a quand même une des formes encore, par exemple, d'idéalisation de cette épopée de la conquête qui a été énormément mise en avant à la fois dans la presse, mais par exemple dans tout ce qui était distribué aux enfants voilà, pendant toute une partie du XXe siècle. Et l'image de l'explorateur ou du militaire qui arrivait à conquérir seul une région est encore quelque chose qui fait partie de l'imaginaire qu'on a en tête. Et je pense qu'il est encore nécessaire de déconstruire à la fois l'idée d'un homme blanc qui serait arrivé tout puissant et qui aurait fait ce qu'il aurait voulu, et montrer voilà, des réalités beaucoup plus complexes, et puis aussi montrer le monde qui existait en dehors d'eux, parce que le problème du discours colonial, c'est qu'il n'a tendance à voir que les figures coloniales, que les colonisateurs, et à oublier tout le monde qu'il y a autour, les sociétés africaines, leurs richesses, leur culture. Si on s'intéressait un peu plus, par exemple, aux cultures du Sahara et du Sahel et de l'Afrique en général, si on voyait leur richesse historique, et ça changerait de fait les formes de préjugés qu'ont une partie de nos compatriotes sur ces sociétés, parce que on voit, quand les explorateurs arrivent, des sociétés déjà constituées avec des États, des organisations d'impôts, des savants qui sont capables de discuter d'égo à égo avec des gens de par le monde, hein, que ça soit dans le monde arabe si on est dans des régions musulmanes, ou avec les savants européens qui arrivent, qui produisent des récits, qui produisent des connaissances qui encore aujourd'hui nous permettent de comprendre leur société.
On continue la visite ? Là, on se trouve, Camille Lefebvre, dans la fin, dans les dernières salles de l'exposition Visage de l'exploration, avec un écho important qui est fait à une expédition en Sibérie de Joseph Martin, avec là, dans cette vitrine, devant nous, une tenue de marchand tout en peau, brodée sur le bas, avec de la fourrure. C'est une peau de bête, de toute façon. Et donc, on peut voir cette pièce-là. Et puis derrière, il y a une photographie, alors agrandie, sur ce mur. Il y a l'original qui est en plus petit, juste là, où il y a écrit « Exposition au Palais du Trocadéro à partir d'objets rapportés de la Sibérie orientale par donc ce monsieur Martin ». Et on peut voir, justement, la profusion d'objets qui ont été ramenés, en l'occurrence de Sibérie, à l'époque. C'était en 1882-86. Et finalement, ces objets-là posent la question très vive, aujourd'hui, de la collecte durant ces explorations. Parce qu'un explorateur, quand il part, il ramène du savoir, mais parfois aussi, il ramène des objets.
C'est un enjeu extrêmement important hein, de savoir aujourd'hui ce qui est dans nos musées. Est-ce que ça a été bien ou mal acquis? Et comment aujourd'hui, dans nos relations avec le reste du monde, et en particulier avec le continent africain, on peut essayer, en quelque sorte, d'agir différemment de ce qu'on a pu faire au 19e et surtout au début du 20e siècle? Là, c'est un point important. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus l'exploration devient coloniale, plus l'exploration devient expédition, plus les troupes vont devenir importantes, les porteurs vont devenir importants, et plus sur la route, effectivement, on achète, on se fait donner, et puis on pille hein, quand on est dans un contexte qui devient impérial ou colonial, ou simplement quand il y a un intérêt européen pour des objets qui sont considérés comme ayant de la valeur. Et aujourd'hui, on le sait, des milliers et des milliers de ces objets sont dans nos musées en France et se pose la question de comment aujourd'hui on peut encore conserver des choses qui auraient certainement plus de place dans ces sociétés que chez nous. Et il y a plusieurs de ces institutions, dont le Quai Branly, mais plusieurs musées partout en France, qui aujourd'hui sont en train de réfléchir à comment on peut identifier le contexte concret dans lequel les objets sont arrivés jusqu'à nous et qui essayent d'avoir une démarche pour retrouver ces contextes de production.
Et alors c'est intéressant parce que vous dites ça dans la dernière salle de l'exposition, juste avant la sortie. Et derrière vous, il y a cet écran où finalement, pendant que vous parliez, je vous écoutais, mais défilait voilà, toute une série de visages anonymes, en tout cas dans le grand récit de l'histoire. Là, il y a des jeunes hommes. Je ne sais pas où on se situe, pour le coup, sur le continent africain.
Je sais qu'une des idées des commissaires autour de ce diaporama était de montrer que dans toutes ces photographies, les gens qui ont été pris regardent intensément l'objectif. Et donc, on ne sait pas ce qu'ils ont pensé exactement sur le moment, mais on sent bien qu'ils avaient un avis sur ce qui était en train de leur arriver. Et donc, l'objectif des commissaires était aussi de mettre en scène que on n'a pas accès à leur point de vue, mais qu'on peut aujourd'hui s'interroger sur l'action de, en quelque sorte, nos ancêtres, ceux qui nous ont pris en photo et qui ne leur ont pas forcément demandé leur avis pour les prendre en photo.
Donc c'est comme une adresse, ils nous regardent et on les regarde.
Exactement. Ils nous invitent à nous interroger sur est-ce que nos regards ont changé, nos manières de concevoir le reste du monde ont changé.
Un certain nombre de personnes peuvent être quand même un peu surprises hein, par le regard qu'on présente là et qu'on donne, même si en effet il ne s'agit pas de choses nouvelles, il s'agit de choses qui ont beaucoup été travaillées, qui sont peut-être rarement montrées aussi concrètement par des objets, des carnets, des photographies, tout ce qu'on peut voir dans l'exposition. Donc là on a une approche qui permet peut-être hein, d'alerter un peu les regards sur cette complexité de l'histoire, donner à réfléchir sur voilà, l'histoire de l'exploration, puis aussi de mettre en question hein, les regards qu'on porte jusqu'à aujourd'hui encore sur l'ailleurs et sur les autres. Ça, c'est vraiment très explicite, je pense, dans la fin de l'exposition, hein, où on interroge justement la manière dont tous ces personnages explorés ont pu concevoir et recevoir les explorateurs, ce qu'ils ont pu en penser, ce sur quoi on a très peu d'informations, mais qui mérite d'être interrogé.
L'exposition Visage de l'exploration 19e siècle du mythe à l'histoire est actuellement visible à la BNF jusqu'au 24 août 2022. Merci à Camille Lefebvre, Hélène Blay, Olivier Loiseau et à toutes les équipes de la BNF. Merci aussi à Igor Strauss ainsi qu'à la Sonothèque de RFI, Céline Develay-Mazurel, Laure Allary. On vous salue, chers auditeurs. La semaine prochaine, les semaines prochaines, saison estivale oblige, on vous propose nos meilleures émissions en rediffusion et on vous revient après avec de nouveaux voyages. Et d'ici là, portez-vous bien et voyagez loin.